OK, oui, encore une belle heure à faire ensemble à Boulevard 102.1. 418-971-1021, c'est le numéro pour me rejoindre en studio. C'est présentement 7 degrés à Québec, généralement nuageux. On attend 9 aujourd'hui, généralement ensoleillé. Demain, jeudi, c'est 40% de possibilité d'averse avec 9 degrés. Et la première neige devrait arriver chez nous dans la nuit de dimanche à lundi. On a un 60% de possibilité d'averse de neige. Et pour ce qui est de la journée de lundi, j'imagine selon le moment, là, on nous dit averse de neige ou de pluie. C'est avec un 5 degrés, mais tu sais, peut-être que le matin ou le soir, ça va descendre en dessous du zéro. Fait que la première neige, les amis, qui est à nos portes. Parlant de neige, pour une 14e année de suite, notre journée des vœux de Noël qui épouse la cause des soins palliatifs pédiatriques du Centre Mère-Enfant-Soleil du Chu de Québec. Plus de 10% de toutes les ventes de cette journée-là qui lui sont remises, des ventes de publicité. Au cours des dernières années, Leclerc Communication qui a remis donc 685 000 $ à l'équipe des docteurs Julie Laflamme et Marie Sfrenette, des dons qui sont significatifs, qui ont permis d'offrir là, de nombreux services aux enfants malades et à leur famille, des soins et services qui ne sont pas défrayés par le régime public parce qu'on les considère comme des soins de confort. Cette année, on a un projet particulier là, qui est la bucket list. Notamment, il y a une partie des sous qui vont aller pour ça. On va réaliser les rêves de la bucket list d'enfants suivis en soins palliatifs au Centre Mère-Enfant-Soleil du CHU de Québec pour acheter de la pub au meilleur prix de l'année, que ce soit pour annoncer sur nos ondes les ventes de Noël ou d'après Noël, faire du recrutement. Ça peut être aussi juste pour souhaiter joyeuses fêtes à votre clientèle distinguée. Ben, notre collègue Maud, qui est absolument fantastique, sympathique, vous attend vos appels. 418-682-8420. 418-682-8420. Et je le répète, là, si vous appelez, on vous met pas un gun sur la tempe, là, en vous disant « Ah, oh, t'as appelé, t'es pogné, t'achètes de la pub. » Non, non, tu peux appeler, tu prends les informations, puis si ça fit, tant mieux. Tu peux faire de la belle visibilité pour ton entreprise. C'est pour une bonne cause en plus. Puis si ça fonctionne pas, ben on souhaite une excellente journée, puis ça se finit là, puis on s'aime bien pareil. Fait que 418-682-8420. Vous appelez notre fantastique Maud qui va vous rediriger vers un représentant ou une représentante. En studio, Matt Paradis de toutsurlehockey.com. Salut mon Matt.
Salut mon Max.
Aujourd'hui, ce sera pas pour la première partie de la chronique toutsurlehockey.com parce qu'on va jaser baseball. On n'a pas le choix. Le Canada qui est viré baseball au grand complet en ce moment avec les Jays qui sont en série mondiale. Jays qui ont créé l'égalité hier 2-2 dans la série face aux Dodgers, privé des services de George Springer, entre autres. Premièrement, as-tu entendu quand j'étais comme mêlé puis je savais pas dans quel niveau tu avais joué au baseball?
Je sortais de mon char, merci de m'avoir rajeuni. Ça a fait du bien aujourd'hui.
Quand j'ai dit junior, j'ai comme fait ouais, non, d'après moi, c'est plus senior. Mais
ouais, c'est ça.
Tu sais, t'es pas un joueur des ligues majeures, mais t'as un certain calibre de baseball.
Ouais, ben j'ai joué junior élite dans ma jeunesse, midget 3, puis jusqu'à cet été, tout récemment, je jouais dans le senior. Là, fait que grosse passion le baseball. Non, j'ai pas lancé le brand tout sur le baseball.
Pas encore, du moins.
Mais on peut starter ça aujourd'hui. Là,
ben, maintenant que je suis un fort amateur de baseball, possiblement que je pourrais écrire sur tout sur le baseball. Matt, sans Springer hier, moi j'avais l'impression, surtout après la défaite de la veille en 18 manches qui doit avoir été un couteau dans le cœur des joueurs. J'ai l'impression que ça allait se finir en 5, c'est là.
Ouais, c'est
et
clair.
Et finalement, ben, les Jays sont sortis forts hier soir. Victoire, c'est de 6-2 au final.
Ouais, victoire de 6-2 des Jays. Puis gros départ de Shane Bieber, là, honnêtement. Je pense que ça a donné comme de la confiance au début de la partie là, pour les Jays. Puis, tu sais, guidé par Vlad Guerrero, qui connaît, c'est des séries incroyables qu'il connaît. Il justifie son salaire qu'il a signé. Là. Fait que, non, ils ont rebondi étonnamment après un long marathon avec aussi le fait qu'on pensait qu'il n'allait pas avoir de relève ou, pour ce match-là contre un Shohei Ohtani qui qui est pas mauvais hein, comme lanceur après avoir été 9 fois sur les buts quelques heures avant le début du match.
Une licorne, ce gars-là.
C'est incroyable, ça. C'est fou, raide.
Dans le cas des Jays, comment on l'explique finalement qu'il soit sorti fort hier puis qu'il ait gagné puis que ça n'a même pas été si serré que ça en bout de ligne?
Ben, je pense qu'on est revenu un petit peu au plan initial. On a vu ça là, dans le premier match. Là, les Jays, là, ils regardaient beaucoup de lancers. Ils prenaient le temps au bâton. Ils n'allaient pas chercher des balles à l'extérieur pour rien. T'sais, Shohei Ohtani, là, cette année, c'est drôle, je suis allé voir les statistiques en saison d'Ohtani sur le monticule. C'est à peu près une soixantaine de strikeouts, puis à peu près 8 ou 9 buts sur balle là, cette année. Là. Fait que t'sais, le gars, il lance des prises. Là. Mais justement, on n'a pas tombé dans le piège de s'élancer sur n'importe quoi au bâton. On est resté patient, puis on a sauté sur les opportunités de frapper des bons coups sûrs opportuns. Fait que ça a été très payant. Là.
Les fameux buts sur balle intentionnels, quand on veut pas prendre la chance que le gars en claque une puis fasse un coup de circuit, là, on pense beaucoup à Guerrero et à Ohtani. T'en penses quoi de cette stratégie-là de dire « Hey, on va le faire avancer au premier but là, volontairement pour pas prendre la chance que ce soit pire? »
Écoute, je suis pas un grand amateur de statistiques avancées dans ma vie en général avec le hockey. Fait que le baseball, encore moins, là, je suis pas assez ça pour m'avancer. Mais je pense que les probabilités sont plus importantes quand tu donnes un but sur balle intentionnel à Ohtani pour affronter un Mookie Betts qui en arrache au bâton, qui a plus de chances de te sortir un roulant pour avoir deux options de retrait, soit au deuxième but ou au premier but. Puis tu sais, il faut le dire, le fameux circuit à Ohtani qui a fait 5-5, ben, si on l'avait ballé automatiquement parce que c'est le meilleur frappeur de la ligue, puis il est capable de te faire mal, puis il y avait tout un match.
Tu gagnais peut-être ce match-là.
Tu gagnais.
Celui de lundi.
Puis il y avait beaucoup de personnes qui n'auraient pas été cernées le lendemain parce qu'on était tous un peu mongols de s'être couché à 3 heures du matin pour voir ce match historique-là.
Ce que fait, puis t'en as glissé un mot, là, ce que fait Guerrero Junior depuis le début des séries, c'est impressionnant. Est-ce que c'est encore plus impressionnant que ce qu'on avait comme attente?
Ben, tu sais, oui. Je pense que oui, c'est plus haut que les attentes. Moi, ce qui m'impressionne dans le cas de Guerrero, c'est que, tu sais, souvent, on fait souvent référence à son père, tu sais, qui était un frappeur de longue balle, un frappeur qui s'élançait toujours pour envoyer la balle dans son champ. Fait que, tu sais, les balles à l'extérieur qu'il envoyait au champ gauche, là, c'était très, très fréquent. Mais Vlad Guerrero, c'est vraiment plus qu'un frappeur de circuit. C'est un frappeur qui est... Il est clutch, qu'on dit, là, il frappe au bon moment. C'est un frappeur de coup sûr également, soit au centre, au champ opposé, dans son champ. Ça doit être très dur présentement pour un lanceur d'affronter Vlad Guerrero. Là.
Tu parles de lanceur. Duel Yesavage-Snell ce soir, comme au premier match. Est-ce que ça l'avantage les Blue Jays comme ça l'a fait au premier match ou c'est juste peut-être une sortie plus difficile pour Snell puis ce soir, on repart sur un même pied d'égalité?
Ouais, ben là, d'un côté, Snell va essayer de revenir fort dans le match comparativement à sa première sortie. Mais à l'inverse, il y a l'espèce de stress de Yesavage, tu sais, qui va être parti. Tu sais, ce gars-là, j'ai lu qu'il a commencé dans le A cette année.
Ouais,
il a tout fait les niveaux, là.
Il a gravi les échelons à un rythme qui n'a pas de maudit bon sens, puis pour se retrouver comme lanceur au premier match de la série mondiale.
Ça n'a aucun sens, mais tu sais, ce petit stress-là va être parti, fait que j'ai l'impression que la jeune recrue des Jays pourra en sortir une grosse à soir. Là.
À quoi tu t'attends pour le reste de la série, si je te demande une petite prédiction?
Écoute, déjà, mes attentes sont passées. Je ne suis pas un gars qui suit autant le baseball que le hockey, je dois l'avouer. Là. Mais de ce que je pouvais comprendre, c'est que les Dodgers étaient quasiment dans la poche avant que la série commence. Puis là, de voir les Jays non seulement mettre la série 2-2, mais ils ont pas été, en dehors du débat depuis le début. Mm-hmm. Là. Ils se sont pas fait sacrer de voler à rien. Ils ont toujours été dans le match. Fait que je m'attends quand même à ce que cette série-là elle aille loin, là, jusqu'au maximum. Là.
Match numéro 7, samedi à Toronto, donc.
Ah, ça serait malade, ça.
Ouais, ça serait quelque chose.
Oh, ouais.
OK, on va passer au Canadien. Avant, je veux dire, là, je voulais le mentionner d'entrée de jeu, puis ça m'est sorti de la tête. J'étais trop excité de parler de baseball. Il va y avoir un open mic aujourd'hui avec Audrey Pinchot, mais ce sera à 11h30 aujourd'hui jusqu'à pas mal la fin du show du Point de Max. La raison est simple, on va avoir des invités très spéciaux en lien avec la journée des vœux de Noël, le Clair Communication. Donc, Audrey Pinchot s'en vient dans les prochaines minutes pour l'open mic qui est décalé d'une trentaine de minutes aujourd'hui. Matt, de tout sur le hockey.com, autre victoire pour Jakub Dobesh hier. Le gars est incroyable. Puis même, tu regardes les chiffres à matin, c'est 17 tirs, 3 buts. 17 arrêts sur 20 tirs, 3 buts. C'est pas des buts faibles, loin de là. C'est des tirs où ça a dévié, où il voyait absolument rien. Le gars est une machine.
Ouais, puis tu sais, Daubush, dans son historique, il a toujours été meilleur quand il recevait 30 à 40 tirs dans un match. Fait que, tu sais, faut pas capoter non plus qu'il ait donné 3 buts sur 20 tirs. L'important, c'est qu'il ait donné la victoire. Ce que malheureusement, Montembeault n'est pas capable de nous donner là, présentement.
Ben justement, est-ce que tu t'attends à ce qu'on ramène Montembeault samedi face au sénateur? Parce que, mettons qu'on le ramène samedi, ça va quand même faire à peu près 10 jours qu'il n'a pas joué avec son dernier match qui était contre les Oilers jeudi passé. Puis là, l'affaire aussi, c'est qu'il n'y a pas 2-2 avant un petit bout encore. Dans un 2-2, c'est clair, c'est écrit dans le ciel que les deux matchs seraient séparés entre les deux gardiens. Là, tu as Jakub Dobesch qui te donne que des victoires, non seulement depuis le début de la saison, mais même dans le calendrier préparatoire, Dobesch n'avait pas accordé un but. Tu n'as quasiment pas le choix de revenir avec Dobesch contre les sénateurs le samedi, là.
Mais en même temps, t'as pas le choix de le faire jouer, Montembeault, parce qu'à un moment donné, tu vas en avoir besoin. T'sais, ça se peut que Daubech frappe un mur, ça se peut que non. Mais si c'est le cas, tu te dois de garder Montembeault en forme pareil. Fait que je pense que le match est au Centre Bell, corrige-moi si je me trompe. Ou...
Le match est au Centre Bell samedi contre les sénateurs. Moi, le match que j'ai peut-être plus ciblé pour Montembeault, ce serait mardi face aux Flyers, toujours au Centre Bell.
Ouais, mais en même temps, l'ambiance d'un Centre Bell un samedi soir avec les Sens qui ont connu deux forts matchs récemment, mais qui sont quand même privés des services de Brady Tkachuk. Écoute, je serais pas contre d'envoyer Montembeault samedi, mais peu importe l'issue du match, je reviens avec Daubech par après.
OK. Matt, t'as pris le temps de regarder des statistiques du Canadien depuis le début de la saison. Puis, tu sais, il y en a qui sautent aux yeux. Là. Nick Suzuki, qui est le meilleur passeur de la LNH. Cole Caulfield, qui avec deux buts encore hier, dont un autre but gagnant en prolongation. C'est quasiment pas juste affronter le Canadien en prolongation cette année. Caulfield, qui est à égalité au premier rang du classement des buteurs de la LNH. Daubech, on en a parlé, dominant au niveau des stats aussi chez les gardiens. Y a-tu d'autres stats qui, toi, t'ont sauté aux yeux quand t'as regardé ça avec plus d'attention?
Ouais, je me suis attardé aux 10 premiers matchs canadiens. Je me suis dit, bon, à quand l'espèce de barrière de dire « Ouais, mais la saison est jeune. Ouais, mais il y a tant de games de jouer. » Je me suis dit, hey, 10 matchs, on regarde les statistiques.
La mienne, ma barrière, moi, j'ai toujours dit, c'est 20 matchs. Le quart de la saison.
Ouais,
mais après, mais après 10 matchs, il y a quand même moyen de faire quelque chose.
Ouais, puis tu sais, en même temps, ce que j'ai fait aujourd'hui, surtout sur le hockey, c'est de relever les stats. Puis oui, il y en a qui m'ont sauté aux yeux. On parlait du duo de gardien de but, Max. Là. Samuel Montembeault a donné 19 buts à ses 10 premiers matchs. Okay? Puis selon les statistiques avancées, le nombre de buts attendus, le nombre de buts qu'il aurait dû donner en fonction de l'emplacement du tir, de la passe...
Mais là, tu as dit 10 premiers matchs.
Des 10 premiers matchs de la saison, dans
c'est
le fond.
Ça, mais c'est les ça. Matchs à Montembeault.
Les matchs qu'il a joué, exact.
Parfait,
oui, il a joué 5 matchs, puis 19 buts alloués. Mais le nombre de buts attendus, c'est 9. Il aurait dû donner 9 buts.
Fait que ça veut dire 10 buts faibles?
Ouais.
Aïe, aïe.
Puis, en guise de comparaison, Jakub Daubech a donné 9 buts. Sur 5 départs aussi. Il aurait eu des buts attendus. Son nombre est de 10. Il aurait dû donner 10 buts, il en a donné moins.
Fait que lui, il en a volé un, entre guillemets.
Exact.
Fait que, dans le fond, Daubech fait pas mal la job qu'on s'attend qu'il fasse quand tu regardes les lancers, alors que dans le cas de Samuel Montembeault, c'est catastrophique.
C'est assez impressionnant. Pour vrai, ça m'a jeté à terre quand j'ai vu ça. Puis je sais, la dernière fois que je suis venu te voir, on avait eu la discussion Daubech-Montembeault. Je voulais pas trop lancer la serviette au niveau de Montembeault. Je la lance pas encore parce que ça reste un vétéran. Tu te dois de le respecter quand même. Mais là, je veux dire, à un moment donné, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Daubech te donne des victoires. Fait que t'as pas le choix d'y aller avec. T'sais. Mais dans les autres statistiques qui m'ont impressionné, Cole Caulfield. Je pense qu'on parle pas assez de Cole Caulfield. On en parle quand il marque en prolongation, quand il marque des buts. Mais une des statistiques qui m'a vraiment impressionné, là, c'est le pourcentage de victoires pour les batteurs et pour la rondelle.
OK.
Ouais. C'est Cole Caulfield qui mène dans l'équipe avec 73% de victoire sur ses 30 batailles pour la rondelle.
Là, j'avais pas cette stat-là, puis si tu me connais bien, tu sais qu'est-ce que je vais te poser comme question et j'espère que tu as la statistique.
Je vais essayer.
Est-ce que tu as la statistique pour le gars du trio qui est là, qui est supposé être là pour gagner les batailles? Parce que c'est tout le temps ça qu'on dit. Là. On dit Slavkovski, il n'est pas là pour scorer, il n'est pas là pour faire des jeux. Il est là pour gagner les batailles dans le coin pour Suzuki et Caulfield.
J'ai pas textuellement la statistique pour les gains en bataille de rondelles dans le cas de Slavkovski. Par contre, j'ai quelque chose à dire sur Slavkovski.
C'est quoi?
Les pertes de rondelles.
Ouais.
Les pertes de rondelles, les giveaways qu'on
parce
dit en
que
anglais.
Ça, c'est quand même supposé être un peu dans ses forces aussi.
Ouais.
De bien protéger la rondelle avec son gabarit. Tu sais, ça, c'est une autre affaire qu'on dit, Slavkovski. C'est il garde le contrôle de la rondelle. Fait que je suis curieux, j'ai hâte d'entendre aussi.
Écoute, les meneurs. Les meneurs,
les pires,
là. Les pires là, effectivement, parce que c'est une statistique qui est plus négative. Les pires dans les pertes de rondelles, il y a 4 joueurs. Mike Matheson, Nick Suzuki, Josh Anderson et Juraj Slavkovski. Cette statistique-là doit être contextualisée. Quand tu perds la rondelle, mais que tu as toujours la rondelle sur la palette, ben c'est normal que tu la perdes.
C'est normal que Lane Hudson, par exemple, perde la rondelle. Les défenseurs qui jouent beaucoup,
exact.
C'est normal qu'ils perdent la rondelle.
Exact. Les deux joueurs qui ont le plus de touches de rondelle, donc qui ont plus souvent la rondelle sur la palette, c'est Matheson et Hudson. Fait que tu sais, c'est normal que Matheson apparaisse là-dedans. Matheson est le meilleur dans la reprise de rondelle, les takeaways avec 23. Fait que tu sais, ça, c'est tout à fait explicable. Suzuki, même chose. Anderson, c'est un petit peu plus décevant. Mais dans le cas de Slavkovski, c'est le joueur sur son trio qui touche le moins souvent la rondelle.
Ouais.
Et il la perd la plus souvent dans toute l'équipe.
Ben juste ça, on le voyait en avantage numérique quand il était placé du côté du flanc droit. Puis là, ça, quand t'es là, ben ta job, c'est soit de lancer sur réception, ce que Slav fait pas vraiment, ou de préparer des jeux. Puis c'était catastrophique. Là. Il était pas capable de préparer des jeux. Souvent, ça se terminait qu'il perdait la rondelle.
Exact. Puis, tu sais, souvent, c'est le fun d'associer ce qu'on voit sur la patinoire avec les statistiques. Puis là, ben, c'est un peu dur de défendre cette facette du jeu-là à Slavkovski.
Matt, de toutsurlehockey.com, en rafale, as-tu quelques autres stats avant qu'on se quitte?
Ben écoute, début de saison du Canadien, là, depuis l'ère Martin Saint-Louis, très bonne amélioration cette année. T'sais, on veut pas s'emballer sur des débuts de saison, mais...
Alex Newhook, vas-tu me parler d'Alex Newhook? Je l'aime, lui.
Ben, je parle en général pour l'équipe. T'sais, depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis, là, on joue pas mal tout le temps pour 500 en début de saison. Les voyages à l'étranger, donc les voyages dans l'Ouest canadien, c'est souvent des moyennes de 500. Puis là, le Canadien est 8-3 au début de la saison. Là, fait que ça va très bien, là, honnêtement. Là. Écoute, si tu veux je te parle d'Alex Newhook, ben c'est lui qui a le meilleur pourcentage de tirs de l'équipe.
Okay.
Avec 27%. C'est
alors ça. Qu'on dit que c'est un gars, on dit toujours que c'est un gars qui est pas scoreur.
Ben le deuxième à ce niveau-là, c'est Cole Caulfield. T'sais, souvent les pourcentages. Si on se fie à Cole Caulfield, son pourcentage de réussite de ses tirs tourne autour de 14% dans une saison. Fait que tu sais, c'est pas une statistique qui va être durable dans
non,
le temps.
Ça, c'est toujours sûr.
Ça va avoir tendance
puis,
à baisser.
Puis ça, c'est quelque chose que je ramène souvent, puis je pense que je gosse même du monde avec ça, là, mais des joueurs qui ont des hauts pourcentages de buts partir, souvent, leur capacité à marquer des buts, ben ça va descendre.
Exact. Tu
sais, je checkais le jeune Florian Jacquel l'année passée à Laval, puis je disais... L'année prochaine, il n'y aura pas une aussi bonne saison. J'avais dit la même chose dans le cas de Raphaël Harvey-Pinard dans le temps que le Canadien. Ouais. J'avais même dit ce gars-là vient de connaître sa meilleure saison en carrière dans LNH. Puis finalement, il n'y en a pas eu d'autres.
T'avais-tu dit ça pour Ryan Poehling à son premier match aussi?
Non, ça je mets non. Mais tu sais, même Tanner Janot, dans le temps avec les Prédateurs de Nashville à ses départs, il avait tout un début, scorait des buts, tu checkais, il scorait quasiment à chaque tir. J'exagère, mais ça, tu sais que ça peut pas durer puis que souvent, ben c'est des feux de paille. Fait que c'est quelque chose que je remarque. Fait que Cole Caulfield, je suis désolé là de vous. Ça va descendre naturellement. Sa production va pas rester ce qu'elle est parce que sinon, il serait quoi sur un pace d'au-dessus de 50 goals?
Ouais, c'est même 60.
Ah, c'est ça.
c'est pratiquement impossible. Mais une petite dernière, Max.
Vas-y.
Ivan Demidov.
Oui.
Ben, il est meneur dans les passes primaires. Passes primaires, tu sais,
La première passe, c'est un but.
C'est ça, tu sais, des mentions d'aide, tu peux les récupérer alors que la rondelle touche ton patin quand tu rentres au banc. Les passes secondaires, il y a des joueurs qui sont spécialistes à récolter ça. Mais des passes primaires, tu sais, surtout avec Demidov sur l'avantage numérique, c'est vraiment des passes décisives qui mènent directement à des buts. Il est meneur avec Nick Suzuki, fait que c'est une statistique qui est bien intéressante pour la recrue.
Matt Paradis, tout sur lehockey.com. Allez suivre le site sur les différentes plateformes. Merci, Matt.
Ouais, merci, Max.
Au retour, Audrey Pinchot s'en vient pour l'open mic du jour, qui est un spécial vœux de Noël. Leclerc Communication, je vous rappelle le numéro pour vous acheter de la pub à bas prix. 418-682-84-20, et c'est pour la bonne cause. Le point de Max.